Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sens de l'immobilier sur Radio Immo, Radio Territoria, en partenariat avec Procivis. Le thème du jour, l'hébergement spécifique des jeunes, mais aussi des seniors. Voilà, on va faire toute la chaîne de vie finalement, avec plusieurs enjeux, effectivement la nécessité que les bailleurs s'investissent sur ce segment, la problématique du service auprès des locataires HLM, et puis bien sûr on verra les innovations, on sait que le secteur d'HLM est très innovant par rapport au secteur privé. Nos invités autour de la table, on est ravis d'accueillir Karine Julien Elkaïm, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du Comex Polylogie. Bienvenue à vous. À vos côtés, Didier Monod, le directeur général de Pluralis et président de Procivis Logement Social. Bonjour Didier.
Bonjour.
Et enfin, Pascal Barbotin. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous êtes président du groupe Midi Habitat.
C'est ça.
Les jeunes, les seniors, on pose le sujet. Hein. Alors, pour les étudiants, on connaît les problématiques. Accès à des logements abordables près des campus universitaires, la qualité, la sécurité des logements, l'offre de services, on va en parler, adaptée aux besoins des étudiants. Internet, espace de travail, service de conciergerie, pourquoi pas. Et puis, flexibilité des contrats de location pour tenir compte des changements de plan de carrière. Enfin, des offres de logement adaptées aussi aux personnes handicapées. Eh bien oui, il y en a parmi les étudiants. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, je dirais, là, on est loin des études, mais bon, ça arrive aussi. Pour les seniors, eh bien, on a à peu près pas tout à fait les mêmes services, mais l'accès à des logements adaptés aux besoins spécifiques, mobilité réduite, aide à la vie quotidienne, qualité et sécurité des logements, offre de services adaptés avec des soins de santé, aide à la vie quotidienne, des activités de loisirs, pourquoi pas, et puis des offres de logement, il faut le dire aussi, abordables, c'est le nerf de la guerre, pour des personnes souvent qui ont des faibles revenus, comment on fait ? Enfin, penser au transport en commun, au commerce, à cette vie, effectivement, dans le troisième, voire dans le quatrième âge. Voilà, c'est l'enjeu de ce sens de l'immobilier. Tout de suite, c'est parti pour cette émission.
Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis.
Chers amis, nous avons décidé ensemble de démarrer par les jeunes, hein, avec une nécessité, on le sait, de plus en plus de loger les jeunes. Comment ça se passe, Olivier Dimono? Je vous laisse la parole pour démarrer. Ils ont la nécessité de loger, on quitte son foyer, on part pour faire ses études, et puis on est confronté à cette première difficulté. C'est vrai que ça coûte de plus en plus cher et les places sont assez restreintes.
Oui, alors ça dépend beaucoup des bassins d'emploi, bien évidemment, et en l'occurrence des bassins d'études. Donc il faut effectivement que l'offre qu'on peut apporter corresponde parfaitement aux besoins de chacun des territoires, qui sont des besoins divers. Il y a bien sûr une offre, on va dire, classique dans les logements du parc privé. Le parc social doit répondre et répond aussi plutôt par des regroupements de ces logements sous forme de résidences, qui permettent d'apporter un certain nombre de services également et d'accompagner ces jeunes sur la partie logement tout au cours de leurs études, avec un certain nombre de spécificités, la mobilité notamment, la réactivité en cas de changement d'études, etc.
Quel type de service justement on va trouver pour les étudiants ?
On va trouver des services de conciergerie, des lieux d'échange, des lieux laveries, parfois salles de sport, voilà, une espèce de lieux d'hôtellerie de long séjour, on va dire, qui autour du logement strictement amène un certain nombre de blanchisseries.
Ça a l'air sympa, on étudie un peu quand même
on est déchargé justement de ces questions de logistique pour pouvoir pleinement se consacrer à ces études.
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc la seule chose, c'est que bien évidemment, tout ça a un coût et que nous, le public que nous logeons, c'est un public modeste, voire pour des étudiants, souvent des publics très modestes. Et donc, il faut effectivement que la facture soit très ajustée pour qu'il y ait un bon équilibre entre le coût de ce qu'on va leur proposer et leur capacité financière et quel équilibre en termes de services.
Mmh. Justement, un petit mot de votre structure, Procivis Logement Social. Dites-nous, présentez-nous votre structure. Comment vous intervenez sur ce sujet ?
C'est le regroupement de 9 organismes pour pratiquement 60 000 logements.
Voilà,
qui sont... Alors, France entière, pas partout en France, mais ça va de Lille à Montpellier, de la côte atlantique aux Alpes, pour aller vite, en passant par le Massif central. Voilà, donc on a un certain nombre d'organismes qui se sont regroupés et qui partagent un certain nombre qui ont des échanges sur essentiellement sur des pratiques de métier, mais aussi sur des achats groupés, etc. Voilà.
Karine Juniel-Caïm, vous êtes présidente de Comex Polylogie. Vous intervenez également sur ces logements étudiants.
Ah oui, effectivement, le groupe Polylogie, c'est un ensemblier qui intervient en fait sur tout type de public et tout type de logement, puisqu'on gère à peu près 160 000 logements, la moitié dans le parc social et dans la moitié dans le parc privé. Et nous avons à peu près 10 000 logements sous forme de résidences, donc qui vont des étudiants jusqu'à l'EHPAD, en passant par l'intergénérationnel ou les publics handicapés.
D'accord, on peut faire toute la chaîne finalement.
Voilà. Et l'objectif dans tout ça, c'est de pouvoir effectivement accompagner, être vraiment sur un parcours résidentiel, en passant de la résidence, après le logement famille, et puis ensuite pour tout type de résidence pour les seniors en fonction de leur autonomie.
Bien sûr. Là, pour répondre à la question justement sur l'hébergement spécifique des jeunes en particulier, on sait qu'il y a cette pénurie aujourd'hui. Alors les familles se mobilisent, bon, il y a les aides, les APL, etc. Mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Comment vous intervenez justement sur ces résidences gérées pour les jeunes et puis on viendra aux seniors dans une deuxième partie.
Alors d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet par rapport au logement des jeunes, dans le parc social en particulier, puisqu'aujourd'hui on a à peu près 10%. Oui. Du parc qui est en fait pour les jeunes, alors qu'il y a à peu près 20 ou 25 ans, on était à 25%, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, on a une vraie problématique en fait dans le parcours résidentiel, puisque les jeunes ont du mal à y rentrer. Et dans les zones tendues en particulier, le fait de proposer une offre spécifique pour les étudiants, c'est un vrai plus. Mmh. Mais à côté de ça, après, on a aussi des réflexions à se poser pour faire un peu d'innovation et pouvoir accompagner ces jeunes dans d'autres types de logements sociaux.
Pour qu'on comprenne bien, moins de 10% aujourd'hui des jeunes de moins de 30 ans dans le parc HLM, ça veut dire que ça épouse la pyramide des âges, moins de jeunes, plus de seniors, ou est-ce que c'est vraiment une difficulté d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place?
Bah, c'est moins de jeunes et on voit qu'il y a de plus en plus de seniors, puisqu'aujourd'hui on a plus d'un peu près plus de 30%, on est à 33% de plus de 60 ans, lorsque c'était moins avant. Oui. Et qu'on voit bien qu'avec la pyramide déjà, cette problématique démographique, on va avoir de plus en plus de seniors en fait dans le parc. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on puisse trouver des moyens de pouvoir accompagner tous les publics. Et donc les jeunes, leur donner la capacité de rentrer dans le parc social et ensuite proposer d'autres types de solutions aux seniors, pour justement les accompagner et trouver des produits qui correspondent à leurs besoins spécifiques.
On dit beaucoup aujourd'hui que, puisque les prix montent, enfin on a cette crise du logement où les gens ne bougent plus, en tout cas en termes de locatifs, est-ce que c'est le cas aussi, c'est-à-dire qu'on habite son HLM finalement, j'allais dire ad vitam aeternam, une fois qu'on l'a, on ne bouge plus?
Alors aujourd'hui, on voit que les taux de rotation ont tendance à baisser. Oui. Si je prends l'Île-de-France, on est à 4%. Donc on a atteint des taux qui sont vraiment très très bas, ouais. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui en fait il n'y a pas cette rotation et cette mutation mobilité dont on aurait besoin pour pouvoir justement accompagner les locataires et aussi vers l'accession, puisque une des solutions c'est le parc social, mais c'est aussi devenir locataire privé ou devenir aussi accédant à la propriété.
C'est un vrai sujet ça, parce qu'on peut se dire une fois qu'on a son HM finalement, et Dieu sait si la liste d'attente est longue, hein, c'est difficile d'y entrer, une fois qu'on l'a finalement on a envie d'y rester, parce que le gap, j'allais dire l'écart avec le privé est souvent très conséquent en termes de financement, donc là aussi c'est un vrai sujet, d'où peut-être aussi ces chiffres extrêmement bas de rotation.
Bah, c'est un vrai sujet dans la mesure où on n'a plus cette rotation qu'on pouvait avoir, et ce qui veut dire qu'on n'a peut-être plus les solutions pour pouvoir évoluer dans ces besoins de parcours résidentiel. Et quand je reparle de l'accession, ça fait aussi partie des sujets, parce qu'il y a beaucoup de solutions qu'on peut proposer. Et justement, au sein de Procivis, on travaille beaucoup sur ces notions d'accession et d'accession sociale. Oui. Mais l'accompagnement de certains publics qui ne peuvent pas forcément passer à l'accession sociale, et notamment dans le parc social avec des produits spécifiques en résidence, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et c'est une vraie problématique qu'on a globalement et collectivement, compte tenu de l'évolution démographique et du fait qu'on vit de plus en plus vieux, ce qui est une bonne chose.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, mais à côté de ça, ça veut dire qu'il faut aussi que nous, on s'adapte globalement et collectivement pour pouvoir apporter des solutions à tous les publics et notamment les seniors, puisque ce qui est important, ce n'est pas tellement l'âge, c'est surtout son niveau d'autonomie.
Oui, et comment dans quel état de forme aussi on est. Alors, je vois Pascal Barbotin, juste à côté, président du groupe Midi Habitat, qui opine du chef quand il vous entend, effectivement, avec cette crispation hein, sur les jeunes. C'est le constat aussi que vous avez. Quel est votre regard, Pascal ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous sommes un groupe qui opérons sur le Grand Sud-Ouest, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. On a les mêmes constats en région, avec peut-être une approche plus segmentée ou plus diverse, notamment sur le créneau jeune, par exemple. Je partage le constat disant il y a plusieurs âges dans lesquels on doit intervenir et être davantage présent. J'appelle ça moi les trois âges, c'est-à-dire que on sert peut-être pas assez les jeunes et les jeunes actifs par exemple, on sert pas assez les publics âgés. D'ailleurs, on constate que les crises successives que l'on traverse nous font oublier un peu la nécessité de loger des publics âgés qui sont de plus en plus nombreux. Là, je rejoins Karine sur ce sujet. Et sur les jeunes, il y a des approches aussi différenciées qui sont le traditionnel partenariat avec les campus, avec les CROUS, donc sur le terrain des universités, sur lequel il ne faut pas oublier d'être présent, parce qu'il y a une demande très forte d'être logé à proximité des universités. Ah oui. De sa fac, de son labo, de sa bibliothèque, parce qu'effectivement, on travaille quand on est étudiant. Hein, je confirme ce que vous disiez, monsieur Coustet. L'objectif principal, c'est celui-là.
Ça arrive, quand même.
Il y a le deuxième créneau qui est plutôt, et tout le monde le constate dans toutes les villes, de la volonté des jeunes d'habiter en centre-ville. Donc avec un équilibre entre sa vie privée et sa vie d'étudiant. Là, on a beaucoup pratiqué depuis longtemps, par exemple, des colocations, qui sont aussi un moyen de créer plusieurs logements dans un logement. Hein. Donc avec, de fait, les services à proximité, puisqu'on est en centre-ville. Et sans oublier aussi le créneau des jeunes actifs, sur lequel on a beaucoup investi ces dernières années, en coopération notamment avec les associations et les fédérations qui travaillent dans le secteur de l'habitat jeune, parce que là aussi, la suite de l'étudiant, c'est le stage, c'est le premier emploi, c'est l'alternance. Et là, effectivement, spécifiquement et de façon plus dure encore, il y a un problème de logement. Et donc, créer des foyers habitat jeune, des résidences habitat jeune, en complément du parc étudiant, ça me semble être une nécessité.
Alors justement, Didier Monod, vous avez évidemment cette nécessité de loger les jeunes. Il y a des plateformes hein, qui se montent et puis on voit aussi des foyers collectifs, mais là qui sont plébiscités, mais bon, dès qu'on peut les abandonner, quand même, on n'hésite pas à en partir et puis à trouver un petit peu mieux.
Oui, alors ces foyers qu'évoquait à l'instant Pascal, il faut bien comprendre, c'est important ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas un jeune, quoi. Il y a des étudiants, il y a des jeunes travailleurs, il y a des jeunes actifs qui sont déjà entrés dans la vie professionnelle et qui sont déjà toujours jeunes, mais plus des jeunes travailleurs comme on l'entend. Et effectivement, au milieu, il y a une offre de logement qui est très diverse, avec beaucoup de diffus, hein, parce que la grande majorité, c'est quand même du logement dans le diffus, en colocation ou pas.
Dans le diffus, on explique hein, pour nos auditeurs, c'est le marché classique.
C'est le logement de Monsieur Tout-le-Monde,
hors HLM.
Et puis, il y a ces foyers qu'on appelait foyers de jeunes travailleurs avant, qui regroupent en un même lieu, qui sont des lieux d'hébergement, hein, avec aujourd'hui c'est plutôt du petit studio, à l'époque c'était simplement des chambres, comme les chambres étudiantes d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui les standards ont nettement progressé, on a des foyers qui sont très accueillants en termes au moins immobiliers, hein. On a fait des gros efforts là-dessus. Et ils ont une importance capitale, c'est que ce jeune travailleur, il va aller de stage en stage pour se former, et bien évidemment, la logistique du logement, elle était très lourde. La logistique de ces hébergements, leur capacité d'accueil sont beaucoup plus souples et flexibles. Donc on a besoin de réaliser ces plateformes pour que le lien avec le travail, l'emploi, la formation soit aussi souple que possible.
Mmh. Donc je le disais, dès qu'ils ont en tout cas la stabilité et les revenus confortables, ils abandonnent ce type de logement,
s'ils peuvent.
Évidemment, ce n'est pas l'idée d'y rester ad vitam aeternam. En revanche, une nouvelle chose, c'est des collectifs qui viennent vous voir de temps en temps, qui viennent voir des opérateurs pour dire, ben voilà, on a un projet d'habitat en commun. Et est-ce que vous pouvez le mettre en musique, le mettre en œuvre? Ça fait enfin, en tout cas, c'était une vogue, une mode, peut-être dans les années 2000-2010, où ça en est?
Oui, bon, ça tend un peu à se ralentir parce que c'est des projets très complexes à conduire. Ça veut dire que les futurs habitants d'un même immeuble se sont réunis pour participer à toutes les phases de la création. Mmh. Aujourd'hui, ça s'entend essentiellement dans le cadre de l'accession sociale qu'évoquait Karine à l'instant. Ça nécessite effectivement beaucoup de travail. On cumule beaucoup de difficultés, hein, parce que tous ceux qui ont fait construire un jour dans leur vie savent combien, sur le plan familial, c'est un sujet sensible et angoissant. Ben, ce projet-là, cette angoisse-là, il faut la partager, mais parfois aussi l'additionner avec celle des autres membres du groupe. Donc c'est des projets qui sont compliqués à faire aboutir. Nous, il se trouve qu'on en a un qu'on va livrer dans quelques jours maintenant, mais qui a mis énormément de temps et qui tient beaucoup. L'aboutissement du projet tient à la qualité du groupe.
Oui. On c'est en quoi a... C'est de l'habitat participatif.
C'est ça, c'est de l'habitat participatif, c'est le terme qui lui est consacré. Ça peut marcher aussi par le locatif de façon très expérimentale. Nous, on a un petit groupe d'une douzaine de logements qui a... trentaine d'années maintenant, 35 ans je crois, et qui fonctionne, mais on est dans l'expérimental, puisque bien évidemment, les règles d'attribution mélangent les règles d'attribution du logement social, de la cooptation, enfin on est dans un no man's land qui se justifie sur l'expérimental, qui donne d'excellents résultats en termes de fonctionnement et de vivre ensemble, bien sûr. C'est un habitat dans lequel chacun a son logement, un tout petit peu plus petit que le logement standard, mais avec en général une pièce où les gens peuvent se réunir, accueillir parfois même de la famille. Voilà, donc c'est un mode de vie beaucoup plus ensemble. J'essaye de dire pas collectif, mais c'est vraiment du vivre ensemble. C'est des projets qui sont tellement compliqués et relativement onéreux, qui sont réservés quand même... Enfin, c'est pas la politique du logement qui pourra se bâtir sur ce type de projet.
Voilà, on ne pourra pas le faire à l'échelle, comme on dit, ça risque d'être compliqué. Je vois Karine Julien qui est en train de sourire. Bon, c'est bien d'expérimenter aussi, hein. Il faut tenter de nouvelles choses.
Nous, on expérimente aussi, donc c'est pour ça que je riais sur le fait qu'il y a des fois où on est un peu sur de l'innovation, où on est avec la réglementation HLM, qui est quand même une réglementation qui est très compliquée, de réussir à faire justement ce vivre ensemble et vraiment on est sur la couture et c'est pas toujours très simple, mais les gens qui sont et qui vivent dans ce type d'habitation et d'habitat sont en général très contents.
Voilà. Alors justement, ça fait de la transition avec les seniors, hein, les plus vieux, avec des résidences. Vous travaillez aussi sur vous commencez la livraison de résidences intergénérationnelles. Ça, c'est un projet intéressant, puisque il n'y a pas de raison de mettre les gens dans des cases, les jeunes d'un côté, les seniors de l'autre. On peut vivre ensemble, on peut avoir ces fameuses résidences intergénérationnelles. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Alors en fait, c'est des résidences où on est entre le logement diffus et ce qu'on appelle les résidences autonomie, où là, on est sur des publics seniors qui sont avec un niveau d'autonomie un peu plus limité. Et l'objectif, c'est de faire vivre dans une même résidence des seniors et des moins seniors, on va dire, alors que ça peut être aussi avec des familles, où on a donc chacun son logement et il y a des pièces communes. Et donc nous, effectivement, on a livré depuis plusieurs années un certain nombre d'opérations avec des espaces en commun, des salles de sport. Il y en a même eu, on a fait un endroit pour faire venir les coiffeurs. Et puis donc, on a un gardien régisseur.
C'est important qu'il y ait quelqu'un quand même qui fasse le lien.
Pour animer la résidence, exactement. Donc on a un gardien régisseur qu'on a formé pour ça et qui anime la résidence, donc en soirée, en journée, etc. Et qui accompagne en fait les seniors aussi sur toutes les problématiques un peu administratives qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est vrai que ce type de résidence, quand on y va, il y a, en tout cas, je pense que ça va aussi et ça vit beaucoup grâce à la qualité du gardien régisseur. Et nous, on fait beaucoup attention à ça. Et à chaque fois que j'y vais, moi, ça me fait toujours vraiment plaisir de voir des personnes qui se promènent dans les couloirs avec la serviette autour du cou en sortant de la salle de sport avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et ça, pour moi, c'est une vraie satisfaction. Parce que ça veut dire que ce type de produit, ça répond vraiment à un besoin Et donc, on essaie vraiment d'en développer de plus en plus.
C'est
avec
quoi
les
la taille, Karine Julien Kalim? On est sur des grands ensembles, on est sur des petites unités?
On est sur des résidences qui font entre 90 et 110, 120 D'accord. logements. Donc, ouais. c'est quand même des résidences importantes.
Ouais.
Effectivement, là où c'est compliqué aujourd'hui, c'est que, je reviens toujours à la réglementation du logement social, on est sur des produits qui sont un peu un mixte entre du logement famille, puisqu'on est sur des appartements individuels, et de la résidence plus généraliste. Et en termes de financement et de financement des services justement qu'on apporte aux seniors, ben là on est un peu au milieu du gué, et il y a des choses à améliorer pour que ce type de produit qui répond à un vrai besoin puisse être développé au fur et à mesure.
Pascal Barbotin, justement, c'est vrai qu'il y a aussi ce sujet, il ne faut pas s'en cacher, du financement, hein, avec des règles aussi un petit peu compliquées. Comme tout promoteur, quand on crée des résidences, vous le savez, on est contraint maintenant au fameux ZAN, zéro artificialisation nette. Comment on fait aujourd'hui, vous qui êtes dans des petites et moyennes villes, hein, dans le sud-ouest, c'est vrai, est-ce que ça passe par du réinvestissement du centre-ville, la fabrique de la ville sur la ville? Comment on fait aujourd'hui pour construire ces résidences?
Je pense que, et les exemples qu'on vient de donner sont tout à fait éloquents, hein. Il faut déjà faire preuve d'extrême agilité, hein. Je crois qu'il n'y a pas un projet qui ressemble à un autre. Hein. Et hormis la production de logements sociaux de façon régulière, qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, qui sont sur des financements de l'État, des financements des collectivités, des financements d'Action Logement, nos fonds propres aussi, hein, qui sont très fortement investis dans la production de logements sociaux. Dès lors qu'on change un peu notre vision des choses sur justement des publics un peu plus spécifiques, il faut aller dans le champ plutôt des nouveautés, de l'expérimentation, et on sert un peu de pilote dans l'avion pour mettre autour de la table justement des partenaires qui vont participer à l'élaboration du projet, que ce soit sur la partie conception dans l'habitat participatif, que ce soit effectivement des partenaires de gestion comme dans l'intergénérationnel, ou expérimenter des nouveautés. Effectivement, on est très présent, par exemple, nous, en ville moyenne, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les cœurs de ville, c'est-à-dire la reconquête d'immeubles dans, effectivement, le périmètre en général sauvegardé, en général proche de la mairie, en général proche des commerces, etc.
Quelle ville, par exemple, vous les citez?
On peut citer Albi, par exemple, qui est le siège social Albi. de notre groupe, hein, sur lequel on va faire du petit point, avec en plus une commande de la collectivité qui est de lutter, puisque c'est une ville touristique qui est très courue, puisque classée à l'UNESCO, etc., où la mairie nous demande d'intervenir pour loger de façon permanente davantage de personnes dans le centre, face aux résidences touristiques, face à la croissance d'Airbnb, etc. Donc là, il faut aller chercher des immeubles, en général de taille modeste, environ 10 logements, hein, dans tout le tissu du centre-ville, et mobiliser nos équipes sur le sujet, qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de travailler sur l'ancien pour le remettre à niveau du neuf, on va dire ça comme ça. Il faut mobiliser des entreprises qui savent faire, c'est pas toujours le cas. Oui. Je pense que dans ce domaine-là, comme dans celui de la réhabilitation générale, il y a encore beaucoup de progrès à avoir, notamment en lien avec la Fédération du bâtiment, pour avoir des artisans, des entreprises qui puissent travailler là-dessus. Et il faut aller chercher des financements spécifiques, des aides, en complément de nos fonds propres et des financements habituels. Par exemple, sur Cœur de Ville, l'action d'Action Logement a été très forte jusqu'à maintenant et permet d'être levier à hauteur quasiment de 20% du programme. Ou alors dans la reconversion d'emprises de la collectivité ou industrielle à reconvertir, même si elles sont petites, sur lequel on a mobilisé du fonds friche de l'État et qui sont là aussi des leviers importants pour boucler le financement.
Donc ces nouveaux programmes, fonds friche, fonds vert, c'est des choses que vous utilisez, que vous leviers pratiquement indispensables. Alors on ne peut pas se cacher que les résidences gérées, comme tout la promotion aujourd'hui, c'est compliqué. On peut citer les chiffres, vous me les disiez hors antenne, c'est vrai que c'est très long, c'est de plus en plus long de boucler les opérations pour des EHPAD, mais aussi pour les résidences jeunes. Quels sont les délais?
On peut dire effectivement que sur un projet de résidence spécifique, on est quasiment à deux fois le temps consacré à une résidence standard.
Hein, donc un EHPAD, 7 ans de projet,
7 ans de projet. Il n'y en a plus beaucoup en autorisation, c'est 7 à 10 ans de projet, effectivement, sur un EHPAD. Sur
une résidence jeune,
sur une résidence type habitat jeune, un petit peu moins, mais quand même quelques années de plus, parce que là aussi, il faut aller chercher l'accord de la collectivité, l'accord de l'État, des financements spécifiques. Le gestionnaire a lui aussi son budget, donc il y a des allers-retours un peu itératifs sur le sujet pour que, à livre ouvert, on puisse dire ça tient la route économiquement ou pas. Et ça, ça prend plus de temps que, bien entendu, quand on est dans la chaîne standard de production de logement.
Ouais, c'est un peu étonnant, parce qu'on sait très bien que ce soit les jeunes ou les seniors, notre sujet du jour, on est quand même dans la pénurie. Et pourtant, on a des délais extrêmement longs. Alors, on attendait tous, je pense, autour de la table, les conclusions du CNR Logement qui viennent d'être reportées, s'inédit, on parle de juin. Quel est votre état d'esprit? Comment vous avez pris cette nouvelle, Karine Julien-Alcaïm?
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges par tous les acteurs divers et variés autour de ce sujet logement.
Vous avez été sollicité.
Oui, exactement. Qui est un sujet extrêmement important. On peut le voir quand on est aussi bien du côté bailleur que du côté promoteur. C'est vrai qu'on a des demandes qui sont de plus en plus importantes, que ce soit dans le logement famille ou dans les différents types de logements, aussi bien étudiants que ces seniors. Donc il y a des vraies choses à faire, des actions à mettre en place rapidement pour pouvoir fluidifier l'intégralité du parcours résidentiel.
Donc, vous avez fait des propositions pour le...
Dans le cadre des propositions, effectivement, il y a eu beaucoup de propositions des différents acteurs, aussi bien au niveau de Procivis, de l'USH d'une manière générale, des bailleurs, etc., pour pouvoir faire des propositions, pour faire une fluidité du marché, que ce soit sur la partie locative sociale, locative privée, et puis aussi sur la partie accession. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de demandeurs et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont très actifs et qui ont plein d'idées pour pouvoir justement un peu faire évoluer toutes ces problématiques. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment entendu par rapport à ça. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que on travaille un peu dans notre coin, entre guillemets, pour pouvoir continuer à avancer et faire des propositions. Je pense que tout ce qui vient d'être dit là montre bien
c'est à vous finalement d'innover, d'être actif sur le terrain. Oui. De proposer des choses. D'autant que l'enjeu pour la vieillesse, notamment Didier Monod, c'est avant tout, plutôt que de créer des centres, peut-être de maintenir les personnes âgées chez elles. On sait en tout cas que ça a des avantages, que les personnes vivent mieux, vivent plus longtemps quand elles sont chez elles, à condition de bien les accompagner.
Oui, bien sûr. On a compris depuis longtemps que, quel que soit le plan de développement des EHPAD, ça ne répondrait pas aux problématiques du vieillissement.
C'est trop massif finalement aujourd'hui.
C'est-à-dire que les volumes sont conséquents. Karine a expliqué l'espèce de courbe de Gauss un peu déformée avec une augmentation très forte de la population âgée. Donc on va pas pouvoir créer des EHPAD pour répondre à cette augmentation. C'est bien évidemment, il faut que ces établissements existent pour les plus dépendants, parce que eux, ils ne pourront pas être maintenus ou très difficilement maintenus à domicile. Mais on comprend bien que, comme nos anciens ont vieilli aussi, parfois un peu moins vieux, mais parfois vieux, et ils ont vieilli pour l'essentiel sans connaître un EHPAD, sans connaître un établissement, mais parce qu'ils ont vécu chez eux avec un logement plus ou moins adapté. Et aujourd'hui, on sait faire des logements qui sont adaptés au vieillissement. Je pense notamment, bien sûr, classiquement au sanitaire, mais pas que, les points lumineux, etc. Enfin, il y a des choses qui sont pas très, très complexes à mettre en place à la construction, qui sont un peu plus complexes à réaliser sur le parc ancien. Mais il faut absolument qu'on continue nos efforts, on le fait tous.
Adaptation.
D'adaptation.
Chemin lumineux, les douches.
Les douches, les douches, c'est
pour éviter le risque de chute.
Plusieurs centaines par an pour chacun de nos organismes.
Mmh. Donc, autorisation des accès.
Voilà, motorisation des accès, puisqu'on a sécurisé des accès d'immeubles avec des portes extrêmement lourdes et digicodes. On comprend bien que quand on se déplace difficilement, ouvrir sa porte, lutter...
Surtout qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs.
En général, il y en a plusieurs. Il y a un ferme-porte qui est parfois joue trop bien son rôle. Donc voilà. Donc effectivement, il faut qu'on motorise ces portes. Donc, aujourd'hui, on sait faire ça. Et c'est du traitement, j'allais presque dire de masse, même si c'est pas très joli de le dire comme ça, pour réserver les établissements aux problématiques les plus lourdes.
Il nous reste quelques minutes, Karine Julien-Kem, je voudrais qu'on fasse le point sur les innovations hein, dont vous faites preuve justement avec du coworking, non du co-living. Le coworking, c'est encore autre chose, quoique. C'est l'exemple par exemple de Trois Moulins Habitat avec l'expérience Camarage. Expliquez-nous.
Alors effectivement, là on a parlé de l'adaptation au logement, donc il y a après le côté, on va dire, technique, il y a tout l'accompagnement aussi au niveau des seniors dans les services. Donc nous, on essaie aussi de mettre en place des accompagnements pour qu'on puisse justement les accompagner sur les côtés administratifs, etc. Et puis là, on a testé donc avec Trois Moulins Habitat une structure qui s'appelle Camarage. Et l'idée, c'est de mettre en relation un jeune et un moins jeune, et que le moins jeune donc puisse vivre chez le plus âgé avec un loyer qui est relativement réduit, et qu'en contrepartie, il puisse avoir des services, etc., du plus jeune vers le moins jeune. Et c'est une vraie solidarité en fait entre les deux, et on commence à avoir des jeunes qui vivent chez des moins jeunes, et pour nous c'est vraiment un vrai résultat de pouvoir faire ce type de projet, parce que effectivement il y a tout le travail qu'on peut avoir en tant que bailleur sur le côté gestion de nos résidences, mais aujourd'hui on a un vrai sujet aussi sur tout ce qui est service par rapport à nos différents clients, et le fait de pouvoir trouver des solutions comme ça, pour moi c'est un vrai succès, et je suis vraiment très contente que ça puisse fonctionner.
Et puis on parle également d'habitat groupé participatif pour les plus de 60 ans. C'est votre expérience sur Koyo.
Alors Koyo, effectivement, c'est des maisons qu'on est en train de mettre en place, où on est sur de l'intergénérationnel, on va dire, mais de l'intergénérationnel de plus de 60 ans.
Il y a les 60 et les 90.
60 ans et plus, mais quand même, ça fait une sacrée marge entre les deux. Et on est sur des appartements avec des pièces communes. Et en fait, ce sont les locataires qui animent même leur résidence. Donc effectivement, c'est des seniors qui ont envie d'avoir et de partager des choses avec d'autres seniors. Et c'est vrai que on est un peu sur du sur-mesure, se disait Pascal tout à l'heure. Mais ça, pour l'instant, ça reporte quand même du succès. Et donc ça fait partie de tout ce qu'on essaie de faire, d'innovation dont je parlais tout à l'heure, pour essayer de faire une fluidité dans ce parcours résidentiel.
Oui, Pascal, justement.
Je crois qu'il y a aussi un enjeu et une responsabilité que nous avons, qui est un peu dans la société où l'on vit, le thème de rompre l'isolement. C'est peut-être vrai pour un étudiant ou pour un jeune actif qui est projeté en dehors de chez lui, à 100, 200 km de chez lui, près de son travail, près de la fac. C'est vrai, bien entendu, pour les personnes âgées. Tout ce qu'on peut mettre en place, on a aussi, nous, une expérimentation sur l'habitat inclusif pour les personnes âgées, c'est bien un fil que l'on met en place grâce à nous, à notre expertise, parce que aujourd'hui, personne âgée toute seule dans son logement, même un logement social, on constate qu'elle voit de moins en moins de monde. Mmh. Et donc je pense qu'on a cette responsabilité-là de la réinsérer d'une certaine façon dans son environnement proche, par exemple ce que disait Karine, sur plusieurs logements avec plusieurs âges différents, qui sont pas forcément que le grand âge, et puis de la faire sortir, faire des activités. Si un jeune vient pour faire de l'initiation dans la salle commune de la résidence intergénérationnelle, de l'initiation à l'informatique que les personnes âgées ne connaissent absolument pas, mais qui pourtant est indispensable aux démarches administratives, on aura réussi quelque chose. Et si en plus on peut projeter ça dans le quartier, dans la ville, de façon un petit peu plus loin, en accompagnant des associations, des CCAS et autres, je pense qu'on aura tout réussi.
En effet, vaste sujet. Didier, un petit mot de conclusion, il nous reste 30 secondes.
Non, mais ça a été ouvert par Karine. Effectivement, on attend des suites à ce CNR, oui, des suites à ce pacte de confiance que la Première ministre a appelé de ses voeux en juillet dernier. Ça va faire bientôt un an. Et pendant ce temps, la roue tourne. Et nous ne sommes pas seulement des bailleurs, des opérateurs. Nous intervenons avec des conséquences lourdes sur l'économie du bâtiment. Et aujourd'hui, il y a urgence à ce que, effectivement, les pouvoirs publics prennent la mesure de la situation.
Alors l'urgence, je pense que tout le monde l'a bien saisi, en tout cas les fédérations diverses et variées dans tout l'immobilier est en train de sonner la, tirer la sonnette d'alarme. Donc je pense que là, on devrait avoir quelques annonces. On espère qu'effectivement, ça va se déboucler rapidement. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur cet hébergement spécifique, que ce soit pour les jeunes ou pour les seniors. Un grand merci à nos experts autour de la table. Karine Junel-Caïm, présidente du directeur, membre du COMEX de Polylogie, Didier Mon, directeur général de Pluralis et président de Procivis Logement Social, et Pascal Barbotin, Habitat, Midi Habitat. Merci beaucoup à vous. Voilà pour cet épisode du Sens de l'Immobilier. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Très bonne journée à tous.
Le Sens de l'Immobilier, une émission proposée par Procivis, à retrouver sur les sites de Radio Immo et Radio Territoria.